Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons parler foi, décision, engagement. Alors voilà, donc Matthieu chapitre 6. Alors, verset 33, c'est Jésus qui nous exhorte à ce qui suit, cherchez premièrement, ou traduisez si vous voulez, chercher d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors c'est vrai que c'est véritablement un message que nous connaissons, en tous les cas un texte de la Bible que nous connaissons, puisque c'est tout simplement au cœur même du sermon sur la montagne. Alors nous sommes exhortés à une première chose, c'est à chercher. Et vous savez que Jésus le dira d'une manière très explicite, celui qui cherche, trouve. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais je crois que ce que Jésus nous engage, c'est à faire une recherche déterminée. Il y a parfois des recherches nonchalantes, sans espoir de trouver, mais si on trouve, ça sera bien, on n'ira pas plus loin. Mais toujours est-il qu'il nous demande d'y engager notre volonté. En sachant que ce que nous cherchons existe, ce que nous cherchons est une réalité, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un rêve, mais c'est quelque chose de bien concret. Alors si on y ajoute dans notre recherche la détermination et l'engagement de trouver, alors à ce moment-là, eh bien, nous allons immanquablement arriver au but et à obtenir ce que Jésus nous dit par la suite. Et la suite, c'est ceci. Cherchez, nous dit-il, le royaume de Dieu. Alors, c'est vrai que le royaume de Dieu, ça semble nébuleux pour pas mal de gens, parce que ce que l'on connaît, c'est le royaume des hommes, et l'empire des hommes dans ce monde, qui est plus ou moins, finalement, agréable à vivre. Mais le royaume de Dieu, c'est une vue de l'esprit, en quelque sorte. Mais ça n'empêche pas que c'est une réalité quand même. Le royaume de Dieu s'adresse au cœur des hommes, c'est-à-dire eh bien, à ce qu'il y a de plus intime chez l'homme. Et ce royaume de Dieu proposé par Jésus doit nous conduire au royaume des cieux. Première étape. Et le royaume de Dieu, Jésus nous en parle, comme étant tout simplement eh bien là, un état, un monde, certes invisible, mais dont la réalité ne peut nous échapper lorsque nous sommes bien conséquents avec la proposition qui nous est faite, le royaume de Dieu, cherchez-le. Et nous nous apercevons que ce n'est pas une démarche intellectuelle ou cérébrale, c'est avant tout, et bien là, une conviction du cœur. Chercher le royaume de Dieu, donc un état inversé de notre condition naturelle, parce que qu'est-ce qui pourrait nous faire chercher le royaume de Dieu dans la définition que nous avons donnée alors que nous sommes sur la terre? Et cette condition naturelle qui est la nôtre, et Jésus en parle dans ces deux petits versets, cette condition naturelle, est-ce qu'elle nous satisfait ou non? Est-ce que nous n'aurions pas besoin de quelque chose d'autres inspirations nécessaires à notre âme? Parce que cette condition naturelle, je le répète, est faite d'inquiétudes et de diverses douleurs. On le voit à travers les exhortations qui nous sont données à travers l'Évangile, mais on le voit tous les jours, hein, c'est manifeste. On ne peut pas dire que la terre, c'est véritablement le royaume du bonheur, de la paix, de l'épanouissement de l'homme, de la satisfaction. Alors, il est ajouté ceci, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et je voudrais faire une précision sur cette pensée, ce qui est juste pour Dieu, parce que c'est cela dont il est question, c'est un état normal. Oui. Il y a des choses qui sont des normalités en ce qui concerne eh bien, Dieu, son message, l'Évangile, ce que Jésus nous entretient, c'est la normalité du ciel, en quelque sorte. Parce que vous savez qu'il y a une grande différence entre le ciel et la terre. C'est un état normal dans sa volonté. C'est pourquoi, dans cette prière du Notre Père, il nous est dit, mais que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Parce qu'au ciel, c'est le bonheur. Au ciel, il n'y a pas toutes ces horreurs, il n'y a pas toutes ces anxiétés, toutes ces angoisses, tous ces déchirements, tous ces drames qui existent sur notre terre et que nous connaissons bien, parce que finalement, c'est notre quotidien. Peut-être pas pour nous personnellement, mais autour de nous, c'est bien cela quand même. Alors, c'est un état normal dans sa volonté, c'est-à-dire le bon ordre des choses à vivre. Parce que figurez-vous que depuis toujours, depuis que l'homme est sur la terre, depuis que l'humanité a été créée, eh bien, nous nous apercevons que l'ordre a été renversé. On appelle ça, figurez-vous, c'est très simple, hein, le désordre. Voilà. C'est le désordre, on ne s'en aperçoit plus tellement. Pour la bonne raison que nous sommes tellement imprégnés, immergés, imbibés de ce désordre, que nous sommes accoutumés à cette condition. Et l'ordre des choses, donc, à vivre, susceptible de nous procurer la paix. C'est pourquoi que lorsque nous prêchons l'évangile, nous annonçons un évangile qui se nomme l'évangile de paix, qui apporte la joie, qui apporte en quelque sorte le bien. D'ailleurs, c'est pour cela que cet évangile veut dire une bonne nouvelle. Oui, annoncer prioritairement aux pauvres, à tous ceux qui sont malheureux, aux aveugles, tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont captifs, tous ceux qui, quelque part, eh bien, ont besoin d'entendre un message qui s'appelle le message de la grâce, à la place d'un message de loi. Parce que tout fonctionne ici-bas par la loi. Une loi qui est souvent impitoyable, la loi des hommes. Et c'est ainsi que les choses sont données. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, nous venons de l'expliciter, et voilà maintenant le résultat. C'est pour ça qu'il y avait une démarche déterminée et volontaire. Elle est volontaire parce que nous savons ce qu'il y a. Et Jésus nous fait la promesse, puisque c'est dans un cadre de prière, il nous dit, mais toutes choses vous seront données par-dessus tout, par-dessus. Toute chose. Alors qu'est-ce que nous pourrions comprendre dans, qu'est-ce que nous pourrions saisir dans cette expression de Jésus, toutes choses vous seront données. C'est le don. C'est un cadeau de Dieu. Toutes les choses, on pourrait les expliquer de cette manière, nécessaires à la vie, utiles à l'existence, bienfaisantes à notre être, des choses agréables également, eh bien, elles nous seront consenties, données, voire même où les problèmes, où les questions, où les réponses et les solutions trouveront, on peut le dire de cette manière, d'heureuses conclusions d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons faire les choses. Il suffit de rechercher, d'orienter notre pensée vers quelque chose qui est immatériel, le royaume de Dieu, de nous satisfaire ou tout simplement de nous impliquer dans cette justice qui est exprimée à travers tout le message de l'Évangile. Et là, Jésus nous dit, mais tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, dans toutes choses, je viens de le dire, elles sont utiles, nécessaires, elles sont bienfaisantes et agréables, et elles seront tout simplement, je dirais presque, je ne sais pas si je dois m'exprimer ainsi, mais elles seront automatiquement consenties. Elles vous seront données, automatiquement, parce que c'est une loi. Une loi qui fait que là où il y a la foi, il y a l'exaucement. Mais là où il y a la foi, naturellement. Alors, Jésus nous explique un petit peu tout ça dans cette première partie. Dans la grammaire du royaume de Dieu, si je peux m'exprimer de cette manière, dans la grammaire, vous savez ce que c'est que la grammaire, il y a des priorités à savoir. Ce sont des choses très simples que je suis en train d'exposer ce soir, que nous partageons ensemble, mais il y a des principes immuables, des principes que Dieu a créés pour le bonheur des hommes, pour leur salut, et puis pour aller dans ce royaume des cieux, lorsque le moment sera venu. Alors, c'est pour ça que je rappelle les termes qui sont employés par Jésus, premièrement, ou si vous voulez, d'abord, avant toute chose, vous donnez la prééminence, c'est-à-dire que vous allez donner la première place à ça. Le reste viendra. Ne vous inquiétez pas. C'est un faux problème de vouloir s'accaparer les choses du monde, d'avoir ceci ou cela, avec peut-être peine et souffrance, avec toutes sortes de gesticulations honnêtes ou malhonnêtes, des choses qui appartiennent à notre environnement sur cette terre, à la nature, finalement, dans laquelle nous sommes enveloppés, alors que Jésus nous dit, mais si vous mettez ce principe en premier, si vous avez compris qu'il y a, eh bien, à faire passer et donner la priorité à Dieu, eh bien à ce moment-là, vous allez voir que les choses seront toutes différentes. Il y a une expression bien de chez nous qui nous dit qu'il ne faut jamais mettre la charrette devant les bœufs, parce que ça n'avance pas, hein, naturellement. Et on comprend qu'il y a de même dans les enseignements que Jésus nous donne, dans toute la Bible, et particulièrement c'est l'évangile qui nous intéresse, eh bien il y a des choses que nous avons à comprendre, à réaliser, mais à intégrer profondément en conviction dans notre cœur. Et si nous demandons à Dieu qu'il nous donne des convictions sur des bases comme ça, bien, nous allons les avoir. Parce que Dieu ne demande que ça, que le monde croit en lui. Et que dans cette foi que le monde, ou que les hommes, particulièrement les chrétiens, eh bien, mettent en Dieu, c'est que la plus grande joie de Dieu, c'est de nous donner. C'est de nous exaucer dans nos prières. C'est simple. Alors, dans la grammaire, je vous parlais, la première personne, celle qui est mise en avant, vous l'avez compris, c'est Dieu. La deuxième personne qui vient après Dieu, c'est toi. C'est l'autrui, c'est les autres. La troisième personne, c'est moi. Je ne viens qu'en troisième position, figurez-vous. Eh oui, c'est une trinité, finalement, dans cette prière. Dieu en premier, l'autre servi avant moi et moi en dernier. Et c'est ainsi que Dieu va renverser, finalement, eh bien, les choses dans la manière, nous, naturellement, de concevoir la vie, où nous nous servons en premier. Nous pensons peut-être accessoirement aux autres, et puis le dernier service, c'est Dieu. Vous retournez la pyramide, et là, elle est d'aplomb. Quand on veut la mettre sur la pointe, la pyramide, elle va s'écrouler. Mais si vous la mettez sur un socle, qui est ce carré, vous imaginez la pyramide carrée, alors là, ça va tenir, et le haut, eh bien, vous allez voir que ça aura du sens et ça aura des résultats. Jésus veut nous dire, à travers ces quelques paroles, que c'est l'ensemble, et dans cet ordre de rang et de temps, je dis bien de rang et de temps, parce que Dieu, c'est l'éternité, les hommes, l'autre et moi, nous sommes temporaires, temporels, en tous les cas. Donc, c'est ensemble de cet ordre que la paix du cœur, le repos de l'esprit et l'exaucement nous est assuré. Le verset 34 nous le dit. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Quelle sécurité d'entendre ces paroles, mais il faut toujours le mettre en pratique. C'est peut-être beaucoup plus difficile devant les contingences de notre existence ici-bas et devant la vue des choses qui peuvent nous effrayer, nous troubler et quelquefois tellement nous perturber qu'on en perd finalement le regard vers Dieu. Parce qu'il y a toutes sortes d'événements qui peuvent se passer. Alors Jésus nous le dit, parce que c'est lié les deux versets, vous avez compris. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, mais il a raison Jésus, parce que même les gens qui ne connaissent pas l'évangile ou qui ne sont pas chrétiens, quand ils lisent, s'ils lisaient par exemple ces quelques versets, ils diraient, mais c'est vrai ça. On ne peut qu'y ajouter une affirmation de vérité. C'est vrai. C'est pas parce qu'on va s'inquiéter que ça va changer quelque chose. Ça, c'est sûr. Et pourquoi ? Pourquoi Jésus fait-il référence à une invitation à chercher le royaume de Dieu et sa justice, et avec cette promesse formelle que nous obtiendrons ce que nous avons besoin, et que tout de suite il lit, mais ne vous inquiétez de rien. En quelque sorte, il y a d'un côté le remède qui est même avant le mal. Le mal, c'est l'inquiétude. Le remède, c'est chercher le royaume de Dieu. Vous vous rendez compte ? Le diagnostic est fait. Il est fait même avant d'avoir découvert le mal. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Alors, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude est un mal destructeur. Trop souvent, très souvent dans les paraboles de Jésus, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament en particulier, eh bien, il est stigmatisé l'inquiétude, la peur, la crainte. Parce que c'est quelque chose qui use la vie, qui use nos forces physiques, mais qui use aussi nos forces morales et nos forces psychiques, pour ne pas dire nos forces spirituelles, pour les détruire. Ça use et ça fatigue. Alors que Dieu promet formellement, je l'ai dit il y a un instant, de pourvoir à tous nos besoins, si nous comprenons seulement, si nous voulons faire l'effort de comprendre, si nous voulons rechercher ce que nous avons dit, les bonnes priorités de l'existence. Mettre Dieu en premier, et puis tout le reste vous sera donné. Par surcroît. Pardon. Premièrement, la foi, nous le lisons dans le Nouveau Testament, La foi, et comme nous le chantons également à travers un hymne, la foi bannit la crainte. C'est vrai. C'est une vérité, tout autant que le reste. Et la foi qui bannit la crainte, en n'oubliant jamais que l'inquiétude ajoute inutilement à nos fardeaux et n'allège en rien, tout simplement, les difficultés du jour, et encore davantage, et encore moins celles de demain. Ce n'est pas parce que nous avons un gros problème ce soir que je vais passer la nuit à me triturer les mélanges, à chercher une solution, à là me rendre malade. Ça ne va rien changer à l'instant présent que je me rends malade et ça ne changera pas le lendemain. Au contraire, je vais me relever encore beaucoup plus fatigué, encore beaucoup plus épuisé. C'est ça ce que ça veut dire, tout simplement. Donc, il ne faut pas oublier ça, que ça ne sert à rien. Et Jésus dira, mais vous n'ajouterez pas une coudée de plus à votre vie. Hein. Une coudée, c'est à peu près 50 cm. C'est ça, hein, selon les mesures anciennes. Et ça ne nous fera pas vivre plus tard, plus longtemps. D'ailleurs, si nous vivons plus longtemps encore dans une vie médiocre d'inquiétude et d'anxiété, je crois qu'il vaut mieux partir à ce moment-là. Enfin, excusez-moi, c'est pas un conseil que je vous donne, mais c'est une appréciation toute personnelle. Mais je veux dire que de vivre une vie mauvaise, une vie médiocre, alors qu'il nous est proposé une meilleure vie, dans la paix et le repos, alors à ce moment-là, qu'est-ce que nous voulons choisir? Et c'est curieux, l'humanité est faite ainsi, c'est qu'elle croule sous des problèmes, des interrogations, des anxiétés, des angoisses, mortelles même quelquefois, et pourtant elle ne veut pas changer de condition. Alors elle ne veut pas changer de condition parce qu'elle ne connaît pas peut-être le chemin. Elle ne connaît pas la route qui mène à la paix, à la joie et au bonheur. Ça c'est peut-être pour une grande part. Mais nous avons vérifié que quelquefois les gens, on leur propose tout simplement de dire « Mais écoutez, faites un effort pour croire Jésus. Lisez l'Évangile. Priez Jésus. Adressez-vous à lui. » Ils disent « Mais ça ne sert à rien tout cela. » Alors ils préfèrent rester dans leur condition de misère et de médiocrité. C'est dommage. C'est dommage parce que tous ceux qui ont fait l'expérience du contraire, on s'est aperçu que ça fonctionne et ça marche. Dieu donne, il exauce, il délivre, il donne des solutions et des réponses. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit ça, je voudrais simplement le citer. Il dit ceci, « Où finit la foi, commence le souci. » Et son contraire, « Et où finit le souci, commence la foi. » C'est vrai. Je crois qu'il y a quelque chose d'antinomique entre la foi et le souci. La foi et l'inquiétude, la foi et la peur ou la crainte. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la foi, elle chasse, elle bannit la crainte, la peur et toutes ces choses. C'est-à-dire, la confiance que nous mettons en Dieu, puisqu'il est dit de le rechercher, la confiance que nous mettons dans ce Dieu tout-puissant, en d'autres termes, et je vais employer une expression composée, le lâcher-prise. Ah, le lâcher-prise. Vous savez, on peut le traduire par un autre mot qui est aussi un langage tout à fait biblique et évangélique, c'est l'abandon. Voilà. Tant qu'on se bat, tant qu'on guerroie, tant qu'on entend les cliquetis de nos armes pour essayer de nous défendre nous-mêmes, d'essayer de nous épuiser à essayer d'escalader une montagne qui est trop haute, inaccessible, alors à ce moment-là, ça ne sert à rien. Le lâcher-prise, c'est ça le sens que nous pouvons donner à la foi, c'est un abandon. C'est « je te fais confiance, Seigneur, complètement et totalement. Je ne regarde pas en arrière. Je n'essaie pas de me débattre, de gesticuler de droite et de gauche parce que ça ne mène à rien. Je reste dans le calme et la confiance. Je m'appuie sur toi. Oui. Je lâche prise. Parce que ce lâcher prise, c'est une grâce de Dieu. Hein. » Et quelquefois, nous pouvons le mettre dans nos prières en disant « Seigneur, tu vois combien je suis malheureux ou malheureuse. Mais je voudrais te demander une chose aujourd'hui, c'est que tu m'apprennes à bien m'abandonner entre tes mains. Que tu m'apprennes à déposer mes fardeaux devant toi. Je le fais dans la prière, mais dès que j'ai fini la prière, je continue à m'inquiéter. Donc il n'y a pas de lâcher prise. Seigneur, tu traites mes problèmes. Tu les solutionnes. Tu m'apportes cette sérénité intérieure dont j'ai immensément besoin. Si nous te prions comme ça, il faut trouver les bons mots. Et moi, je crois que ce sont des mots qui touchent. Donne-moi, Seigneur, de lâcher prise sur tel problème. J'ai du mal. Parce que j'ai peur, tout simplement. J'ai du mal parce que quel sera après l'avenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Comme si nos problèmes nous faisaient vivre. Et comme s'ils nous rendaient heureux. Non, c'est exactement le contraire. C'est d'abandonner, c'est ça. Et nous savons que Jésus nous le dit d'une manière très explicite dans bien des autres enseignements qu'il nous donne, eh bien c'est la source de riches expériences spirituelles. Les choses de la terre qui nous envahissent, qui nous détruisent, qui nous rongent, qui gangrènent notre vie, à la fois notre pensée, nos sentiments, notre cœur, notre raison, alors que quelque part il y a devant nous un autre chemin où il est question de bénédiction, de riche bénédiction spirituelle, c'est-à-dire que ça nous fait rentrer dans une autre dimension. Tout en restant les pieds sur terre, naturellement, nous ne sommes pas des extraterrestres pour autant, ça vous l'avez compris. C'est bien résumé à travers une parole que nous avons dans le livre des psaumes, le psaume 37, verset 5, si je me souviens bien, il est dit ceci, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel, c'est rechercher le royaume de Dieu. Fais de Dieu l'Éternel tes délices, ce que tu aimes le plus, ce que tu désires le plus, ce que tu aspires le plus, ce que tu voudrais mettre véritablement au cœur même de ta vie, ce qui est, eh bien, le plus beau pour toi. Est-ce que c'est la terre ou est-ce que c'est le ciel? Le ciel, eh bien, va venir t'aider en changeant peut-être les conditions que tu as sur la terre. Alors, tu fais de Dieu tes délices, et qu'est-ce qu'il nous est dit? Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera, c'est toujours une question de don, c'est toujours une question de faveur, c'est toujours une question de grâce, de cadeau, si vous aimez mieux, on peut multiplier les mots et d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, si nous revenons à ce que nous avons vu il y a un instant, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Je le traduis d'une autre manière, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais, et j'ajoute, parce qu'il va y avoir toute une série de propositions, tu recherches le royaume de Dieu, vous recherchez le royaume de Dieu premièrement, sans condition. C'est important. Vous savez, la condition est exprimée par ce tout petit mot, si. Si ceci ou si cela. Si Dieu le veut. Si Dieu le peut. Si ceci ou d'autres circonstances qui peuvent intervenir, qui peuvent interférer. Il y a une histoire d'un homme qui aimait Dieu. Mais il l'aimait à sa manière. Il l'aimait quand les choses lui étaient avantageuses. Quand ça pouvait le servir, lui. Comprenez, on a mis la grammaire tout à l'heure, un Dieu en premier, l'autre ensuite, puis le dernier. Mais cet homme, lui, mettait toujours son moi en avant. Il s'appelle Jacob. Et je voudrais simplement lire le texte pour étayer un petit peu la parole, c'est ce que nous sommes en train de vérifier ensemble, dans le chapitre 28, et au verset tout simplement 20, par exemple. Je lis ce passage. Hein. Il nous est dit que Jacob fit un vœu à Dieu. C'est-à-dire qu'il lui avait fait une promesse. Seigneur, un vœu, vous savez ce que c'est les vœux. Hein, on vient de les partager là, dans l'entrée de la nouvelle année. Hein, mais bon, voilà, on peut toujours dire, on peut toujours faire des vœux, maintenant la réalisation hein, ne nous appartient pas. Alors, il a fait un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Vous avez vu un petit peu le trafic? Ça, c'est Jacob. Jacob, il n'était pas tout à fait au clair sur la grâce. Et pourtant, il croyait. C'était pas un profane. C'était un homme qui avait le sens du sacré, mais version égo. On pourrait peut-être s'exprimer de cette manière. Vous avez vu comment il parle? Il fait un marché avec Dieu. Et il dit, parce qu'il n'est pas tout à fait sûr, c'est pour ça qu'il met la condition. Si, avec moi, s'il me garde dans ce que je fais, en bien ou en mal, je ne sais pas, hein, là, il faudrait peut-être déterminer la valeur morale des choses, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, ça fait beaucoup de choses, hein. Alors à ce moment-là, je dis que cette pierre sur laquelle je suis là, eh bien, elle sera la maison de Dieu. Ça va s'appeler, je crois, Bethel, me semble, hein, c'est ça. Et je lui donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, c'est assez curieux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et sans condition. C'est ça la question. Et nous sommes tellement habitués à marchander. Enfin, encore, on n'est pas dans les pays orientaux, parce que là, je ne vous dis pas, hein, c'est autre chose. Hein. Mais On est toujours en train de dire, eh bien voilà, il y a ceci, il y a cela, etc. On attend toujours un retour. On envoie l'ascenseur et on pense qu'il va revenir naturellement. Hein. Et Jacob oublie qu'avec Dieu, ouais, je crois qu'il oublie, ce n'est pas du donnant-donnant. Quand il nous est dit rechercher le royaume de Dieu, c'est la grâce. Dans ce royaume, ce n'est pas le marché, mais le royaume de Dieu, c'est la grâce. Ce royaume s'ouvre pour nous faire grâce et nous donner tout ce dont nous avons besoin simplement par faveur. C'est une faveur de Dieu. C'est gratuit, tout simplement. Alors, c'est une pure démonstration de l'amour de Dieu, sans mérite. Et la première chose, c'est de lui donner la première place. Et non seulement on va lui donner la première place, on va lui donner la prééminence de notre vie, et lui nous dit, alors à ce moment-là, si tu m'as mis à cette position dans ton cœur, moi je vais te donner tout le reste. Tout ce qui peut être imaginable, tout ce dont tu as besoin, tout ce qui peut être utile dans cette vie du début jusqu'à la fin de ton chemin terrestre. Voilà, tout le reste. Il y a une belle parole de l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains, si Dieu nous a donné le nec plus ultra, voilà, c'est du latin, ça veut dire tout simplement ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus, le plus haut. Il nous est dit, mais si Dieu n'a pas épargné son propre fils, qu'il avait de plus précieux, de plus grand, s'il l'a livré à la croix, Jésus, alors il nous est donné sous une forme de réflexion et une forme d'interrogation, s'il nous a donné le plus, il va nous donner le moins, et il nous est dit, ne vous donnera-t-il pas tout avec Jésus? Si nous avons Jésus, nous avons tout. D'ailleurs, Paul le dira, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pourquoi nous inquiéter? Vous inquiétez? Eh bien, nous faisons erreur quand nous nous inquiétons, parce que nous nous éloignons finalement de la vérité, et nous nous éloignons de ce après quoi nous poursuivons. Tout simplement. Alors je dis bien, recherchez premièrement le royaume de Dieu, sans condition. Seigneur, je te demande de faire ceci et cela dans ma vie, de me guérir, de me donner du travail, de bénir ma famille, de sauver mes enfants, de faire ceci et cela qui peut être agréable et qui peut contribuer à notre joie et à notre plaisir. Seigneur, je te le demande parce que je l'ai à cœur. Mais sans condition, c'est toi qui donnes et c'est moi qui reçois. Et parce que je reçois, eh bien je te remercie comme si j'avais déjà reçu. Sans condition. Il y a dans le cœur des hommes d'autres non-priorités et qui fait que l'homme s'éloigne finalement du but. On a parlé de chercher Dieu sans condition. Mais il y a aussi de chercher Dieu sans y réflexion. C'est le contraire de la réflexion. Alors, pour cela, nous allons ouvrir un autre passage dans notre Bible. Et nous allons visiter l'évangile de Luc, enfin une partie, très peu d'ailleurs. Et vous allez comprendre que, je vais lire le texte entièrement et puis après on va le décomposer. Vous allez comprendre. Sans réflexion, Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, le groupe de Jésus avec ses disciples, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Jésus dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? On a vu les conditions de Jacob posées à Dieu. Maintenant, on va voir, dans la première proposition, le premier qui apparaît, cet homme qui apparaît en premier dans le texte de Luc, il dit à Jésus, sans que Jésus lui demande rien d'ailleurs, je te suivrai partout où tu iras. Je pense que c'était un supporter fervent de Jésus. Ah, tu sais, moi, Seigneur, je t'ai entendu. Tu as parlé, tu as dit des choses extraordinaires. Et puis, non seulement tu l'as dit, mais tu l'as fait, j'ai vu des miracles. Tu te rends compte? Tu as ouvert les yeux de l'aveugle, tu as guéri le lépreux, tu as changé, eh bien là, et des très peu de pain et des poissons, tu en as donné pour des milliers de personnes. La pêche miraculeuse, Seigneur, c'est extraordinaire. Alors, l'homme, il se dit, moi, un faiseur de miracles comme ça, je ne lâche pas. Hein. Je vais avec lui, hein. Je cours derrière lui. Et lui dit d'ailleurs, hein, je te suivrai partout où tu iras. Je voudrais vous dire que dans cette recherche du royaume de Dieu et de mettre Dieu en premier, ça veut dire tout simplement que la bonne volonté ne suffit pas. Le personnage dont nous nous entretenons était plein de bonne volonté. C'était un ardent, un disciple, un zélé, un homme qui avait certainement reconnu avec ses sens. Hein. Et bien là, tout ce qu'il pouvait y avoir de formidable, d'extraordinaire, il était complètement ébahi, stupéfait par la personne de Jésus, sa personnalité, son message. Ouais. Mais il y avait un petit problème. C'est que pour suivre Jésus et pour aller au bout, il faut autre chose que du sentiment, que des émotions, que du spectaculaire, que ceci ou cela. Il faut l'énergie de la foi à tout accepter le programme. Je dis bien tout accepter le programme de Jésus. C'est pourquoi si vous lisez entre les lignes, vous verrez que Jésus dit, mais si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il va voir. Parce que ça, c'est pas facile. On veut bien les avantages du royaume de Dieu. Dieu bénit, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Mais il y a aussi des exigences. Des exigences qui ne sont pas toujours faciles, parce qu'être chrétien, c'est quelquefois affronter la moquerie. Pour certains, c'est de recevoir des coups. Ça arrive, c'est vrai. Particulièrement des coups qui sont à caractère psychologique ou moraux. Le désintéressement ou le rejet de notre propre famille. Ça peut être beaucoup de choses, des sacrifices matériels également. Pour suivre Jésus, on a vu, hein, il y a des exemples. Moi, je pense à Lévi Matthieu, hein, ben, il a tout laissé pour quand Jésus lui a dit, viens, suis-moi. Ça, c'est certain. Alors, je dis bien que le programme de Dieu est exigeant. Et il faut savoir, il faut bien comprendre à quoi nous nous engageons. Mais nous avons cette promesse que le Seigneur est avec nous. Hein. Il ne va pas nous laisser tomber. Pas un seul cheveu de votre tête ne tombera sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Hein. Ça, faut le savoir aussi. Et cet homme, dans son enthousiasme, dit, mais j'irai jusqu'au bout du monde, j'irai te décrocher la lune. Bon, à l'époque, c'était... Mais déjà, encore aujourd'hui, c'est quand même pas facile. Alors, je te suivrai partout où tu iras. Ça, c'est l'engagement, c'est le royaume de Dieu, dans l'irréflexion. Et vous savez, si nous voulons bien réfléchir à ce que cela impose, et ce que cela implique de suivre Jésus, de rechercher le royaume de Dieu, eh bien, on a tous les éléments dans l'Écriture, lisez l'Évangile, nous pouvons lire l'Évangile et nous savons de quoi il retourne, naturellement. Alors, l'Évangile, le royaume de Dieu sans condition, dans l'irréflexion, et le royaume de Dieu sans restriction. C'est le verset 59 que je lis maintenant, où il est dit tout simplement cette parole. Jésus dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un véritable appel à un ministère d'homme, un ministère d'évangéliste, ou un ministère de pasteur peut-être. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est un véritable appel. Va annoncer le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu dans sa recherche, mais sans restriction. Et il va dire, mais laisse-moi d'abord aller. C'est toujours le mot d'abord, premièrement. Laisse-moi premièrement aller enterrer mon père. Maintenant, il fallait savoir si son père venait de mourir ou si son père, il ne voulait pas le quitter et l'assister jusqu'à sa mort. Ça pouvait durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Hein. Enfin, je ne sais pas. Le texte ne nous dit pas. Mais c'est ce qu'il répond. Hein. Laisse-moi d'abord aller. La conviction, priorité à Dieu. Rechercher premièrement le royaume de Dieu. Mais cette conviction de cet homme, on va l'expliquer de cette manière, est diluée. Elle est dissoute, en quelque sorte, par le sentiment ou l'affectivité. Je vous ai dit que la foi, c'était une conviction morale dans notre cœur. Ce n'est pas seulement un sentiment religieux, pieux, une émotion, quelques telle sentimentalité que l'on peut ressentir. Non, c'est pas ça la foi. C'est une conviction au niveau de notre cœur. Et en ce qui concerne cet homme, eh bien, il lui manquait une dimension. C'était cette force intérieure du sacrifice. Voilà. Il aimait son papa, ce qui est tout à fait naturel et normal. Mais il se disait, eh bien, écoute, Jésus, moi, je crois que c'est formidable ton appel. Tu me dis que je vais lancer le royaume de Dieu, mais c'est la plus belle chose qui peut m'arriver dans ma vie, de dire aux autres que le bonheur existe, et qu'après cette terre, il y a des promesses de la vie présente, mais il y a des promesses de la vie éternelle. Mais ça, j'y crois. Mais tu sais, quand je serai prêt, comprenez, rechercher premièrement. Et lui, eh ben non, ce n'était pas en premier. Il ne pouvait pas, parce qu'il n'avait pas ce sens du sacrifice. Il ne pouvait pas mettre sur l'autel ce qu'il y avait au fond de son cœur, en quelque sorte. Il ne pouvait pas sacrifier, abandonner ce qui nous est le plus cher et le plus précieux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous a dit que Dieu n'a pas épargné son propre fils pour nous donner toutes choses avec lui. Dieu n'a pas hésité. Abraham, sur le mont Morija, n'a pas hésité à lever le couteau pour sacrifier son propre fils, Isaac, alors que là, eh bien, il a été retenu au dernier moment, qui donne la preuve que Dieu ne demandera jamais les choses qui sont au-delà de nos forces. Mais, on l'a dit, sans condition, sans irréflexion, sans restriction, et il y a encore un autre point que j'aimerais aborder avec vous, sans hésitation. Sans hésitation, c'est le verset 61. Un autre dit à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur, comme le premier, hein, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Alors peut-être un homme qui avait des biens, un homme qui avait, en effet, là, des choses à régler, peut-être, je ne sais pas, hein, on peut le supposer, bon, il ne nous a pas dit autre chose. Sans hésitation. « Permets-moi d'abord de prendre congé de chercher premièrement le royaume de Dieu. » Et là, nous nous retrouvons dans le sens inverse, en quelque sorte. Le choix des valeurs, quelles qu'elles soient, de quelle nature qu'elles soient, des séparations qu'implique cette recherche selon leur importance, des décisions difficiles à prendre, d'abord, premièrement, à donner à Dieu et à son appel la première place. Et ça, c'est toujours un déchirement. Et vous savez, ce qui fait que, même devant les plus grands sacrifices et les plus grandes renonciations que nous puissions avoir, nous, en tant que chrétiens, de chercher le royaume de Dieu, de mettre Jésus à la première place, il y a quelque chose qui nous aide considérablement. C'est la force de l'amour. Vous savez, quand on fait par amour, c'est facile. Parce que nous savons que Dieu nous a aimés le premier, que nous l'aimons en retour, et qu'il y a une relation, non pas sentimentale, mais une relation de ce que l'on peut appeler une relation agapée. En grec, ça veut dire l'amour le plus haut, le plus désintéressé, le plus grand. Une relation que nous avons. Et à ce moment-là, lorsque nous sommes, comment dire, transportés, dévorés par la passion, animés par l'amour de Dieu, eh bien, il passera forcément en premier. Dans la vie, il y a toujours des choix entre un amour primaire et un amour secondaire, entre des choses qui ont une importance et des choses qui ont encore plus d'importance. Nous faisons des choix. Et on sait qu'on met chaque chose à sa place. Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Lui en premier, donc c'est de rechercher le royaume de Dieu sans hésitation, puisque nous savons que c'est le meilleur, c'est le plus beau, le plus grand, le plus estimable. Dieu devant et tout le reste derrière. C'est ce que nous avons fait à un moment donné. Pour chacun d'entre nous, si nous nous souvenons de la manière dont nous avons répondu à l'appel de Dieu, ça s'est passé pour certains plus lentement, pour d'autres d'une manière très rapide, où là nous n'avons pas hésité. Nous avons dit maintenant, comme dans la parabole, vous savez, de la perle de grand prix, nous n'avons pas hésité à tout laisser derrière nous, à tout vendre. Vous savez, les marchands qui trouvent une perle de grand prix dans son champ, ils vendent tout pour avoir la perle, parce que c'est le plus important. Eh bien, c'est vrai que on a laissé des choses derrière nous, et des choses qui faisaient notre vie auparavant. On ne les regrette pas aujourd'hui, parce que nous avons eu le meilleur. Parce que Dieu nous a donné une compensation inestimable et inimaginable de ce que nous avions perdu à un moment donné, que nous l'avons retrouvé au centuple. C'est vrai. C'est vrai. Vous croyez que je vous raconte des histoires ? Non, non, c'est une... Bah, ça fait 40 ans que ça dure. Alors, vraiment, il y a 40 ans que j'aurais décroché. Hein. Je ne me suis pas trouvé floué ou dupé par le Seigneur. Pas du tout. Hein. La confiance que j'avais en lui lorsque j'avais 19 ans, que je l'ai découvert vraiment comme mon sauveur personnel, eh bien, elle est encore intacte dans mon cœur. Et je dirais qu'elle est certainement plus forte maintenant. Parce qu'il y a eu un cheminement d'expérience qui ont renforcé finalement le choix que j'avais fait. Alors, sans condition, sans restriction, non pas dans les réflexions, sans hésitation. Et je termine, les maîtres mots, c'est tout simplement confiance, obéissance, reconnaissance de l'importance de l'appel qui nous est adressé et du message ce soir qui nous est adressé. Quand Jésus nous dit, mais recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, avant toute chose, donnez-lui la priorité. Pour la première place donnée à Dieu, ça sera, c'est déjà pour moi, pour vous, mais ça sera pour tous ceux qui peuvent être à un moment ou à un autre confrontés avec ce type de message, qui est un appel à aller plus loin, s'approcher de Dieu. Eh bien, c'est tout simplement cette première place, elle doit être donnée sans réserve, sans regret, sans retard et sans retour. Ça, c'est le Seigneur. C'est comme ça que nous devenons des chrétiens. C'est comme ça que nous pouvons être des disciples de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous pouvons devenir des témoins et des ambassadeurs du royaume de Dieu. Par l'exemple, non seulement par la parole, mais par l'exemple. Ouais, sans retour. C'est le chemin sans retour. Et c'est un chemin ascendant, ce n'est pas un chemin qui descend. Il nous conduit toujours de plus en plus près du Seigneur. Et alors, conclusion pour notre vie maintenant, parce que là, je vous parle du royaume de Dieu, je vous parle du royaume des cieux, je vous parle de choses qui ne sont pas encore, mais qui sont déjà dans notre cœur, qui nourrissent notre cœur et qui entretiennent notre foi. Alors, qu'est-ce que Dieu nous donne? Quelle promesse il nous laisse? Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus, au-delà et sans limite, au-delà de ce que vous pouvez imaginer et penser, de ce que vous pouvez même demander. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté. Merci Seigneur, parce qu'avec deux petits versets, comme nous avons vu ce soir, il y a de véritables trésors à découvrir. Oui, nous voulons croire, Père éternel, que nous sommes à la recherche de cet or, l'or non pas de la terre, mais l'or du ciel. Et nous voulons croire, Père éternel, que tu veux que ceux qui croient, que ceux qui espèrent en toi, soient... Eh bien, immensément riche. Et la vraie richesse, Seigneur, elle n'est pas dans des espèces sonnantes et trébuchantes. La vraie richesse, elle consiste, Seigneur, tout simplement, à un trésor dans notre corps, dans notre cœur. Ce trésor, il ne se voit pas. Ce trésor, il est bien là. Ce trésor, il se vit. Et il peut se partager, Seigneur, à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons que nous sommes tout à fait dans le contexte de cette réunion et de ce partage pour dire tout simplement encore une dernière fois, cherchez le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Merci Seigneur parce que tu es riche et nous croyons que Seigneur, nous savons par expérience que jamais nous n'avons manqué de quelque chose et qu'en plus Seigneur de tout ce que tu as pourvu à notre vie humaine, à notre vie naturelle, tu nous as donné ta paix, tu nous as donné ta joie. Tu nous as donné ce bonheur, parce que celui-là et tout cela, Seigneur, ne peut pas s'acheter avec de l'argent, mais ça se croit. Et parce que nous le croyons, eh bien non seulement, Seigneur, nous le verrons s'accomplir, mais nous l'avons déjà. Merci, Seigneur. Tu bénis tous ceux qui écoutent ta parole. Et tu les appelles, Seigneur, véritablement à toi. Et tu leur donnes, Seigneur, la force de conviction, cette énergie, Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour te dire tout simplement le mot que tu attends de chaque homme. Oui, Seigneur, je te suis maintenant. Je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mon cœur et je te donne mon esprit. Alors le royaume de Dieu, il est là. Il est pour nous, il nous appartient et nous lui appartenons. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.